Bonjour à tous. Je suis harnaché de telle manière que vous puissiez m'entendre, je crois. Je dois vous dire, je peux vous dire, que j'ai vécu un ou l'autre moment d'émotion parmi vous. Je veux dire aujourd'hui, ce matin. Dans le passé aussi. Mais comme il est écrit quelque part dans les Épîtres, je reconnais que le Seigneur est parmi vous. Et je l'en bénis. Et je m'en réjouis. Je suis venu seul. Ceux qui connaissent Ida, ma femme, n'en seront pas trop étonnés. Vous savez qu'elle n'apprécie pas les grands rassemblements. Mais n'ayez pas de crainte pour elle et pour sa foi. Elle a un excellent contact avec nos deux voisines, dont l'une est bouddhiste d'ailleurs. Et puis, avec d'autres personnes avec qui elle prie. Et puis, elle est très appliquée dans la vie de ses petits-enfants, de nos petits-enfants, dont une, l'aînée Julie, a été baptisée l'an passé, et puis dimanche prochain, les deux suivants, un cousin et une cousine, se font baptiser aussi. Gloire à Dieu. Sujet de joie. Mais vous m'avez demandé d'apporter un message, et puis vous avez même vu le titre qu'on lui a donné, qui est tiré du texte de 2 Corinthiens 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Il s'agit de savoir de quelle richesse il s'agit. Hein. Je ne sais pas si l'un ou l'autre aura quelque crainte que votre ancien pasteur soit tombé dans le piège de l'évangile de la prospérité. Vous avez probablement entendu parler de cela. Message qui promet l'abondance matérielle à ceux qui suivent le Christ. Mais rassurez-vous, simplement la pensée m'est venue que cette chapelle a été vraiment, et nous en avons eu la confirmation, nous avons été entraînés dans ce sens jusqu'à présent, que cette chapelle a été pour notre communauté un riche cadeau, un riche présent. Et maintenant, si l'on effectue un retour en arrière, on peut constater aussi que ce cadeau s'inscrit dans un contexte de changement. Certains ont déjà été évoqués parmi vous. Au plan matériel, n'est-ce pas? Les chaises, les bancs. On a déjà vécu certaines transformations à cette époque, au plan de la compréhension de l'Évangile, de la structure de l'Église, au plan pratique. Et maintenant qu'on est aux fleurettes, des faits nouveaux vont se produire, qui ont rapport quelquefois avec l'extérieur. Un point a déjà été évoqué, nous voyons effectivement des visages nouveaux apparaître dans cet édifice. Il faut dire qu'une église avec un pasteur, c'est déjà moins bizarre qu'une église sans pasteur. Et puis une communauté qui se réunit dans une chapelle, ça fait bonne façon quand même, plutôt que n'importe où, comprenez. Et puis, il y a d'autres personnes qui viennent aussi, qui arrivent. Mais ceux-là, curieusement, ne viennent pas dans ce lieu, mais on dirait qu'ils se sont donné le mot pour aller sonner à la porte du foyer pastoral. Et nous voyons, j'ai mis ça dans mon bouquin, excusez-moi de me répéter, pour ceux qui l'ont lu, ce sont des jeunes, on les appelait facilement des paumés. Plusieurs ont pris la route de l'Orient en quête de spiritualité nouvelle, ou bien en quête de hachiche. Mais tous abritent un mal-être et ils osent en parler. Je ne sais pas qui leur a donné notre adresse, mais Oui, ils viennent sonner et chercher de l'aide. Et puis aussi, on entre dans un temps, une époque où les chrétiens osent plus que dans le passé penser qu'un chrétien a le droit d'avoir des problèmes et même de le dire. Parce que pendant longtemps, ça ne faisait pas bonne impression, il allait mieux se taire. Et puis c'est aussi dans ce contexte que différents encouragements sont donnés. Je me souviens, peut-être certains aussi, ça rappellera un souvenir, d'un pasteur anglais qui est venu parmi nous ici au début. Je ne sais plus pourquoi il était venu, à la Stadt Mission notamment. Un pasteur, mais très, très sympathique, très aimant, rempli de l'amour de Christ. Et puis, il avait sa guitare, et il nous avait chanté, lui, anglais, un petit chant en français. Hein. Vous vous souvenez ? Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, il est si bon pour moi. Oui, et ce n'était pas que des paroles, c'était une réalité, donc il vivait. Il nous a parlé d'une expérience qu'ils avaient faite dans leur église, quand ils ont institué, pour favoriser la fraternité, ils ont institué des dimanches d'invitation mutuelle. Vous connaissez le terme maintenant, hein ? Eh oui, oui. Et puis, alors, un dimanche s'était orienté pour des gens au sein de la communauté, mais avec la recommandation d'inviter plutôt les gens qu'on ne connaissait pas, ou qu'on connaissait peu. Et puis un autre était orienté, un autre dimanche, vers les personnes seules à inviter. Et puis, une autre fois, c'était les voisins que l'on recommandait d'inviter. Et ils avaient effectivement vu que cette manière de faire portait des fruits. Et nous les avons imités, et nous avons vu aussi un meilleur état d'esprit, un esprit plus fraternel parmi nous. Cependant, autre aspect de la vie, les problèmes existentiels apparaissaient aussi de plus en plus. Avec ce souhait dans le cœur des gens, ce désir qu'ils soient résolus. Et alors je partageais ces soucis, le souci qu'on me transmettait aux anciens, et nous prions Dieu, prions avec deux i, n'est-ce pas ? Mais souvent, rien ne changeait. Toutefois, Dieu, dans sa grâce, entendait nos prières et il a répondu. Et de manière assez claire, je ne peux pas entrer dans les détails, il nous a suggéré d'apprendre à l'écouter, lui, dans ce qu'il aurait à dire par rapport à telle ou telle situation, tel ou tel problème, douloureux souvent et difficile toujours. Et c'est ainsi que son nez, ici-dessous, au ré inférieur, les rencontres du vendredi après-midi. Ceux qui s'y rendaient apprenaient à se taire. À se taire, mais pas dans le vide. À se taire pour mieux entendre ce que Dieu aurait à dire. Et Dieu, effectivement, parlait. Dieu ouvrait, a ouvert des voies pratiques. Un peu comme on le lit dans Ésaïe, « Voici le chemin, marchez-y ». Voilà le sentier à prendre, la manière d'approcher telle ou telle personne. Et je pense, j'ai été marqué par un exaucement dans ce cadre-là. Je pense que j'ose dire son nom. Je parle de M. Ganti. Sa veuve est restée parmi nous, mais elle est décédée maintenant, n'est-ce pas ? Donc ils sont au ciel tous les deux. Cet homme était dans une situation difficile, il était très fermé et hostile à la foi, et sa femme souffrait. Donc elle est venue un vendredi. Et puis nous avons porté la situation devant le Seigneur. Et le Seigneur, par une image, nous a montré que cet homme si réfractaire au contact et à tout ce qui était l'Évangile, que cet homme deviendrait accessible. Et nous l'avons cru. Et puis nous avons vu peu à peu des changements intervenir, des contacts ont été donnés presque miraculeusement avec lui, et est venu le jour où, atteint d'ailleurs d'un grave accident vasculaire cérébral, il s'est donné résolument à Jésus-Christ. C'était magnifique. Et ses survivants ont été éblouis par les derniers temps qu'il a vécus. C'est un exemple parmi tellement d'autres. Pourquoi cela? Comment cela est-il possible? Cela est possible en raison du texte que je vous ai lu tout à l'heure, parce que Jésus nous a rejoints dans notre pauvreté humaine, afin de nous enrichir. Il s'est fait pauvre. Pauvre comme nous. Au point qu'il nous précise, le Fils ne put rien faire par lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Jean 5, 19. Ses yeux de Jésus, son attention, son attente, sont toutes orientées, tournées vers son Père. Il attend tout de lui. Et il discerne sa pensée et peut dès lors l'accomplir sur la terre. Et il nous invite à faire de même. Et pour nous, ça n'est ni facile, ni naturel. Nous sommes tellement enclins à compter sur nous-mêmes. Mais il faut dire que, ben oui, avant de le rencontrer, nous n'avions pas d'autre solution. Hein, à compter sur nous-mêmes, sur ce que nous avons appris, sur ce, pour rester dans les termes connus, sur ce que nous considérons comme des richesses, nos richesses. Et j'aimerais vous parler là de ce que Jésus nous montre dans deux récits des évangiles, en nous parlant des pêcheurs du lac de Tibériade. Vous savez que deux pêches miraculeuses nous sont signalées, relatées dans les évangiles. Et ce qui est frappant, c'est que la première se situe tout au début de la marche des disciples avec Jésus, et l'autre tout à la fin, après la résurrection, juste avant l'ascension. Toute cette marche est encadrée par ces deux miracles, j'allais dire, de taille. Il est frappant de constater aussi que, dans un cas comme dans l'autre, ces pêcheurs n'ont rien pris. Rien. Pas la queue d'un poisson. Pourtant, ce sont des hommes de métier, des pêcheurs chevronnés, des professionnels. Les deux fois, ils ont travaillé toute la nuit selon les règles de l'art, selon leurs connaissances et leur expérience. Et le résultat est nul. Je me suis toujours demandé si Jésus n'avait pas ordonné aux poissons d'aller un peu plus loin. Mais soudain, il est là, Jésus. Le maître est là. Il leur parle et ils l'entendent. Et, chose merveilleuse, ils iront jusqu'à faire ce qu'il leur dit. Résultat, il croule sous une montagne de poissons. Et ce double exemple est très parlant. Parce que nous sommes tellement tentés de diriger notre confiance vers des pôles nombreux et divers. Mais l'un de ces pôles est peut-être le plus important. Je l'appellerai le professionnalisme. C'est un des plus importants. Pourquoi ? Eh bien parce que dans notre formation, nous avons passé énormément de temps à nous former à nous, à acquérir des connaissances que nous considérons comme des richesses au plan humain. Mais ces richesses, lorsque nous sommes chrétiens, risquent fort de nous empêcher de donner la primauté à la pensée du Seigneur, pensée originale et efficace, adaptée à la situation dans laquelle on se trouve. Et je suis très heureux quand ce message est compris. J'ai dû l'apprendre au début, parmi vous, combien de travail j'ai fait pour résoudre les problèmes, mais je dirais par moi-même. J'étais très heureux d'entendre un témoignage lors d'un séminaire où j'apportais la matière, là sur la côte atlantique, du côté de Nantes, en France. Et à la fin de ce séminaire, un des participants s'est levé. On me l'avait signalé parce qu'il était un peu hors du commun. Il était venu, il avait fait 200 ou 300 km pour venir. Et puis, on m'avait dit qu'il avait des titres universitaires en psychologie, en théologie. Cet homme, voilà, il a pris la parole et il a dit « Je suis venu ici avec l'idée d'ajouter des casiers à mon savoir et sur lesquels j'aurais mis Samuel Grosjean. » Et puis, j'ai compris, je comprends que ce que Dieu me demande, c'est de dépendre de lui. Dépendre de lui. Et plusieurs parmi vous connaissent le nom de Manfred Engeli. Nous nous sommes rencontrés alors que lui commençait un travail de conseiller à Berne et nous commencions à Lausanne. Et nous avons échangé. Et je lui ai dit, mais comment peux-tu concevoir qu'un homme comme moi qui n'a aucun titre officiel dans le domaine de la relation d'aide puisse être utilisé par Dieu. Et il m'a dit, mais tu sais, mon savoir, mes connaissances en psychologie, elles me sont utiles dans la mesure où je les oublie. Il ne voulait pas dire qu'il les mettait de côté, qu'il n'en faisait plus aucun cas, mais dans la mesure où Dieu, l'Esprit Saint, me conduit à les utiliser, celle-ci ou celle-là. Que dire encore de ces pêches miraculeuses? La deuxième fois, lorsque exténués, ils reviennent sur la côte, les disciples trouvent pour eux un feu allumé, après tout ce temps passé dans l'humidité de la nuit, hein, du poisson grillé, ce qu'ils font pour les restaurer. Et intervient là, dans ce cadre, le dialogue de Jésus avec Pierre, celui qui vient de le renier. Et Jésus lui démontre son pardon, le rétablit dans son appel, élargit les dimensions de cet appel. Il avait dit « Tu seras pêcheur d'hommes », c'est vrai. Maintenant il lui dit, il ajoute encore, il dit « Puisque j'ai effacé ta faute, que je t'ai relevé, tu en as fait l'expérience, que tu connais mieux mon amour, tu pourras prendre soin de mes brebis et même de mes agneaux. » Quel moment important pour Pierre et pour l'Église, je dirais. Pierre a vécu un changement profond. Dans le passé, il se sentait fort, il avait des ressources, il croyait compter là-dessus. Maintenant, il a pris conscience de sa pauvreté. Il a vraiment besoin de recevoir la pensée et l'amour du Seigneur. Je vous dis, je vous invite ce matin à suivre la même voie, à ne pas placer vos et notre confiance dans des moyens humains, purement humains, mais à apprendre à dépendre de Dieu, de ce que l'Esprit veut nous donner, pour venir subvenir, intervenir dans notre pauvreté. Et ainsi, individuellement, mais communautairement, ici, à Villars, nous discernons, je ne dis pas qu'on le fait, pas du tout maintenant, mais davantage, nous discernerons en tout domaine la volonté de Dieu, ce que Paul appelle dans Romains 12, la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Parfait parce que ça accomplit l'œuvre que Dieu a souhaitée. oui, cette voie nous est proposée, tellement loin de ce que Dieu reproche dans l'Apocalypse à une église. Vous voyez probablement à quel texte je fais allusion. Cette église où l'on dit « Moi, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai des connaissances, j'ai ceci, j'ai cela. Je n'ai besoin de rien. » Et le Seigneur ajoute « Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Mais la situation n'est pas désespérée, puisque c'est ainsi. « Je te conseille d'acquérir chez moi les richesses véritables dont tu as besoin. » Et surtout un collier pour que tu vois, un des chants que nous avons chanté va dans ce sens, que tu vois comme je vois, que tu vois les situations, que tu vois les autres comme je les vois, avec tout ce que j'ai en réserve pour eux et que tu peux leur apporter. Oui, tu peux recevoir les projets qui sont les miens, au problème qui est là. Le Seigneur est bon. Il prend pitié, il a pris pitié, il est descendu de son ciel pour cela. Il prend pitié de notre condition, marquée par cette pauvreté par rapport à ce qui est notre appel, à ce que le Seigneur nous propose. Et quand il nous offre cela, c'est qu'il veut le donner. Nous l'avons expérimenté et vous l'expérimentez tous dans une certaine mesure. Mais il voudrait que notre coupe aux uns et aux autres soit pleine. Amen.